RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie. Et après, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'orbite suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président Joko Widodo souhaite que la centralité de l'ASEAN devienne l'attention. La coopération entre l'Indonésie et le Royaume-Uni pour développer l'éducation sanitaire. L'Indonésie et la Nouvelle-Zélande se sont engagés à accroître la valeur commerciale. La Grande-Bretagne reconnaît les ulémas des femmes indonésiennes possèdent un rôle dans la paix. Le gouvernement développe l'asphalte en plastique et en caoutchouc. Les produits alimentaires transformés pénètrent le marché japonais. Cher ami, nous présente maintenant le journal complet. Le président Joko Widodo s'attend à ce que l'unité et la centralité de l'ASEAN soient la préoccupation de tous les pays membres de l'ASEAN. Cela a été déclaré quand il a reçu le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Chok Hoi, au Palais d'État, Jakarta. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a estimé qu'avec l'unité et la centralité de l'ASEAN, l'ASEAN devrait contribuer à façonner un écosystème pacifique et prospère dans la région. Mme Retno Marsudi a également déclaré qu'en plus de souligner l'importance de l'unité et de la centralité de l'ASEAN, le président Joko Widodo a également dévoilé la construction du bâtiment de secrétariat de l'ASEAN à Jakarta. Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Chok Hoi, le président espère que le secrétariat de l'ASEAN a le devoir de renforcer la visibilité de l'ASEAN en diffusant l'information rapide avec précision. En outre, il espère également que la construction de nouveaux bâtiments de secrétariat de l'ASEAN peut contribuer à l'efficacité de la performance de l'ASEAN, notamment dans la gestion d'un certain nombre de réunions de l'ASEAN à Jakarta. Le gouvernement de l'Indonésie et du Royaume-Uni collaborent à l'organisation de séminaires d'éducation sanitaire du 23 au 24 mars à Jakarta. Le thème est « Promouvoir la pratique de la coopération de l'interprofession et d'éducation pour la santé en Indonésie ». Le directeur général de la coopération technologique et de l'enseignement supérieur, Ali Gufron, a déclaré que c'était la première fois que l'Indonésie et le Royaume-Uni organisaient un atelier dans le domaine de l'éducation pour la santé. Lors d'une conférence de presse tenue vendredi le 23 février, il a expliqué à travers cet atelier l'éducation à la santé dans ce pays à l'avenir n'est plus segmentée et il existe des collaborations de diverses professions de la santé. Ce séminaire traitera de la coopération interprofessionnelle des agents de santé à appliquer dans 5 universités qui seront le projet pilote.
Kita sharing dulu dengan UK expert, ahli-ahli dari UK.
Nous partageons d'abord avec des experts du Royaume-Uni, où nous et le Royaume-Uni pouvons partager beaucoup de choses ensemble. Entre autres, au Royaume-Uni, il y a NHS, ou National Health Service, et nous, il y a JKN, l'assurance de maladie nationale. Eh bien, où au Royaume-Uni, il y a le système de référence. Nous avons également un système de référence. Nous voulons que ce partage puisse déboucher sur une approche non seulement de l'éducation internationale, mais aussi de l'efficacité des soins de santé. Le ministère de la Recherche, de Technologie et de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé ont décidé, par l'intermédiaire du comité conjoint, de sélectionner 5 universités, à savoir l'Université d'Indonésie, l'Université Gadjah Mada, l'Université Erlangga, Université Pajajaran et l'Université Hasanuddin. En 2018, il y aura un indicateur de réussite et d'évaluation de fonctionnement de l'éducation interprofessionnelle. Le chef du département de développement et de l'autonomisation des ressources humaines du département de la santé du ministère de la Santé, Ousmane Soumantri, a déclaré que le ministère de la Santé se félicitait de cette coopération. Selon lui, les problèmes de santé ne peuvent pas être résolus par une profession. Pour cela, il soutient fortement cette coopération. L'Indonésie et la Nouvelle-Zélande ont convenu d'augmenter leur valeur commerciale. L'augmentation sera faite progressivement pour atteindre 40 trillions de rupiah. Cela a été affirmé par l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, M. Tantowi Yahya, dans une interview avec La Voix de l'Indonésie à travers un téléphone récemment. Selesai insertnya Reza, tanggal 23, Indonesia dan Selandia Baru berkomitmen tingkatkan nilai perdagangan. Les deux parties s'engagent à continuer de renouveler les relations. Deuxièmement, il est important que les deux parties s'efforcent d'augmenter le volume et la valeur de commerce chaque année en devenant 40 trillions rupiah ou 4 milliards de dollars néo-zélandais en 2024. L'ambassadeur Tantowi Yahya a ajouté que la valeur commerciale actuelle de l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande était entre 14 et 13 trillions rupiah par an. Ce chiffre sera augmenté progressivement jusqu'à atteindre 40 trillions rupiah en 2024. Il estime que le gouvernement indonésien a préparé certaines mesures initiales pour atteindre cet objectif. L'une des premières mesures prises par le gouvernement est la visite bilatérale du président indonésien Joko Widodo en Nouvelle-Zélande pour rencontrer le premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La Grande-Bretagne a reconnu les ulémas des femmes indonésiennes jouent un rôle clé dans la construction de la paix et de la prospérité. Même dans l'histoire, elles ont également une contribution importante dans la lutte contre les envahisseurs et diriger l'empire islamique dans ce pays. Ceci est révélé dans le séminaire sur l'augmentation des ulémas des femmes, le leadership des femmes pour la paix, la prospérité et le pluralisme organisé par Centre d'affectation spéciale pour la paix et des relations sociales, l'Université de Coventry qui a eu lieu au Parlement britannique, Londres, récemment. La fonction politique de l'ambassade d'Indonésie à Londres, Gita Lokamurti, a déclaré à Antara à Londres que le séminaire a été organisé par Rising Global Forum, présentant un certain nombre d'ulémas et de figures indonésiennes telles que Badriah Payumi Munji, Dwi Rubianti Khalifah, le professeur Azumardi Azra, Fakhruddin Abdul Qadir et Kamala Chandra Kirana. Selain itu, Direktur Eksekutif The CTPSR, Mike Hardy, seseminar V Party Delevan Among Rising Women. Selain itu, Direktur Eksekutif The CTPSR, Mike Hardy, seseminar V Party Delevan Among Rising Women, le forme de partage d'expérience sur le rôle des femmes dans la construction de la paix dans une société plurielle. Le ministère des Travaux publics et du logement du peuple, ou POPR, a développé cette année la technologie de l'asphalte en plastique et l'asphalte en caoutchouc. Cette technologie est appliquée dans le programme de travaux d'entretien routier dans plusieurs provinces. Auparavant, le ministère des Travaux publics et du logement du peuple a testé l'application de mélange d'asphalte en plastique dans plusieurs villes, comme à Jakarta, Bekasi, Denpasar, Makassar et Tangerang. Le ministre des Travaux publics et du logement du peuple, M. Basuki Hadi Mulyono, a déclaré récemment que l'application de la technologie de l'asphalte plastique était l'effort du gouvernement pour réduire les déchets de sacs plastiques. Selon la direction générale de Bina Marga du ministère des Travaux publics et du logement du peuple, l'application de la technologie de l'asphalte plastique peut être faite tout au long de 25 km, qui est divisée en plusieurs sections. Les produits alimentaires sous forme de poulet transformé, fabriqués dans le pays, a réussi à pénétrer le marché japonais, ce qui devrait augmenter les exportations nationales. Le ministre du Commerce, M. Enggar Tias Tolukita, a déclaré récemment à Jakarta que pour pénétrer le marché japonais n'était pas facile parce que ce pays appliquait des normes élevées, notamment pour les produits alimentaires et boissons. La première exportation au Japon est le produit des pépites de poulet de PT Belfood Indonesia, une filiale de PT Sierat Produce TBK de Gunung Sewu Group. La première exportation atteint un contenant de produits de poulet transformés. Selon le ministre Enggar Tias Tolukita, cette première exportation devrait être un bon début pour faire progresser l'industrie indonésienne du poulet transformé au marché international. Le Japon avait été choisi comme destination d'exportation pour les produits du poulet en raison de son énorme potentiel de marché. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les nouvelles de l'Indonésie. Des informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Bonjour tous les auditeurs, on se retrouve avec moi, Yubi Suryanto, dans la rubrique de Les nouvelles de l'Indonésie. Une rubrique qui vous donne des informations intéressantes de partout au pays en une semaine. La première nouvelle vient de Jakarta. Du 22 au 25 mars 2018 a eu lieu l'exposition de Telkom Craft Indonesia 2018 qui présente les meilleures œuvres d'artisanat d'Indonésie. Telkom Craft Indonesia est une exposition annuelle des produits typiques de l'archipel qui se tiendra pour la deuxième fois après celle 2017. Cette exposition fait partie du programme des entreprises publiques de la Maison créative des entreprises d'État et a soulevé une variété de produits typiques de l'archipel dans le domaine de la mode, l'artisanat et la qualité des aliments et de la concurrence mondiale. Par cet événement, Telkom Craft Indonesia veut mettre en avant la capacité des petites et moyennes entreprises de PME, des partenaires des entreprises d'État en Indonésie. Leurs meilleures œuvres sont exposées par l'utilisation de la technologie numérique pour que le PME soit plus créative, innovante, compétitive et qu'il fasse l'Indonésie comme la plus grande puissance économique numérique d'Asie du Sud-Est. La nouvelle suivante vient de Pontianak, Kalimantan de l'Ouest. Robots conçus pour assembler Un fantôme s'appelle Kuntilanak, avec une chemise blanche, de longs cheveux et des visages effrayants, est devenu le centre d'attention des visiteurs de Pasona Kulminasi Matahari 2018, au charme de la culmination du soleil de 2018, qui s'est déroulé du 21 au 23 mars au monument Tugu Katulistiwa Pontianak. Ce robot se déplace à l'aide des roues et contrôlé avec une télécommande. À cette année, l'avertissement du point culminant du soleil présente également un mini-planétarium. Comme le robot Kuntilanak, le mini-planétarium vient de l'Institut National d'Aéronautique, ou LAPAN, de Bandung, est également devenu le centre d'attention des visiteurs. Le chef du département de la jeunesse, du sport et du tourisme de la ville de Pontianak, Sharif Saleh à Pontianak, a déclaré que la présence du robot Kuntilanak LAPAN et d'un certain nombre d'art ajoute la charme de la culmination. Pendant ce temps, l'officiel temporaire du maire de Pontianak, Mahmouda, a dit que la ville de Pontianak était très chanceuse parce qu'elle a été traversée par une ligne équatoriale en plein milieu de la ville. Il espère qu'à l'avenir, les activités de la culmination continueront à être visitées par les touristes locaux et étrangers. La nouvelle suivante vient de Medan à Sumatra du Nord. L'université de Sumatra du Nord est classée 25e au niveau de l'Asie du Sud-Est dans le système de classement des 200 universités les plus populaires en Asie compilé par Uniran. Professeur Mohamed Fidel Ghani Siregar, le fils recteur de cette université, a déclaré à Medan mardi que l'université de Sumatra du Nord était également classée 10e sur le droit de propriété intellectuelle par la filiation. Cela a été dit quand il a lu de la discours du recteur de l'université de Sumatra du Nord, professeur Runtung Sitepu, quand il a reçu le président de l'agence des affaires ménagères de DPR de la République d'Indonésie, Anton Sihombing, et le vice-président de l'agence des affaires ménagères de DPR de la République d'Indonésie, Asol Aswar, dans le cadre de l'évaluation du plan stratégique de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie de 2015 à 2019 à l'Université de Sumatra du Nord. Selon lui, une autre réalisation est Louis Green Metric World University Ranking a placé l'Université de Sumatra du Nord au 11e rang en Indonésie et au 234e dans le monde. Il a dit qu'avec l'entrée de l'Université de Sumatra du Nord dans l'évaluation de QS Rating, l'Université d'État est donc prête à entrer dans le 1000 classement QS de l'Université mondiale ou 400 QS de l'Université asiatique. C'était Kabar dari Indonesia ou la nouvelle de l'Indonésie cette semaine. À la semaine prochaine!
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
C'est ce 18, voici l'événement historique qui se passe aujourd'hui. L'édition le 24 mars, on va commencer le 24 mars de la journée mondiale de la tuberculose. La commémoration de la journée mondiale de la tuberculose vise à sensibiliser le public aux épidémies de tuberculose et aux efforts visant à réduire la propagation de l'épidémie. Le 24 mars 1882, un scientifique, le Robert Koch, a annoncé qu'il avait découvert la cause de la tuberculose, c'est Mycobacterium tuberculosis. À cette époque, cette épidémie se propageait en Europe et en Amérique qui provoque la mort d'une personne sur sept. Pour commémorer son service, dont la date de 24 mars a été fixée comme la journée mondiale de la tuberculose. Le 24 mars 1946, l'incident de Bandung Lautan Api ou Bandung de la mer de feu. L'incident de Bandung de la mer de feu est un grand incendie survenu dans la ville de Bandung à la province de Java West En 7 heures, environ 200 000 habitants de Bandung ont brûlé leur maison, ont quitté sa ville et sont allés aux montagnes au sud de Bandung. Cela a été fait pour empêcher les soldats alliés et l'armée de l'administration civile des Indes néerlandais, ou NICA, d'utiliser la ville de Bandung comme un siège militaire stratégique dans la guerre d'indépendance indonésienne. La décision de brûler Bandung a été décidée par la délibération du panel de l'Union de la lutte de Priangan face à toutes les forces de la lutte de la République d'Indonésie. Le colonel Abdul Haris Nasution, commandant de la 3e division de l'armée de la République d'Indonésie, a annoncé les résultats des délibérations et ordonné l'évacuation de Bandung. Dans le même jour, un grand groupe de résidents de Bandung a quitté la ville de Bandung et cette nuit-là, ont brûlé aussi la ville. On termine le 24 mars 1989, le pire accident de déversement de pétrole de l'histoire des États-Unis. Dongfang Ocean. En avant, on l'appelait Exxon Valdez, étant pétrolier, un pétrolier appartenant à une compagnie pétrolière américaine, Exxon Mobil, qui a été détruit après avoir heurté un rocher de déverser plus de 11 millions de gallons d'huile dans les eaux de Prince William. Cet incident est devenu l'une des plus grandes catastrophes environnementales en mer. Les biologistes ont trouvé près de 250 000 oiseaux de mer, 3 000 loutres de mer, 300 phoques, 250 aigles et 22 polars ont été tués par le déversement de pétrole. Ces auditeurs de titre, c'était l'histoire de ce soir. À demain.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Les auditeurs, on se retrouve avec moi, Yubi, dans la rubrique Mon Indonésie, dont le titre est Indonésie, Suisse réalise la coopération du développement de l'industrie professionnelle polytechnique. Les gouvernements de l'Indonésie et de la Suisse sont d'accord pour coopérer au développement d'une école polytechnique professionnelle qui applique un double système à son processus éducatif. Ce programme s'appelle Skill for Competitiveness, abrégé en 4C. Le but de ce programme est d'améliorer les compétences des ressources humaines d'Indonésie pour répondre aux besoins du monde industriel d'aujourd'hui. En outre, le programme prépare également l'Indonésie à entrer dans la mise en œuvre de l'industrie 4.0. Cela a été déclaré par le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, lors du lancement du programme des compétences pour la compétitivité ou Skill for Competitiveness à Jakarta mardi, comme ce qui est cité dans le communiqué de presse du ministère de l'Industrie. Le ministre Erlangga a indiqué qu'il y avait 4 écoles polytechniques et une académie communautaire appartenant au ministère de l'Industrie qui seront développées dans le cadre de cette coopération. Ils sont Polytechnique des métaux de Morowali, Sulawesi Central, Polytechnique des bois et la transformation de bois de Kendal, Java Central, Polytechnique de l'industrie de pétrochimique de Cilegon, Banten, et l'Académie de la communauté de l'industrie métallurgique de Bantaeng, Sulawesi du Sud. En outre, une école appartient au ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, c'est l'École polytechnique de traitement du poisson à Jember, Java de l'Est. L'engagement bilatéral a été marqué par la signature d'un protocole d'accord entre le ministre de l'Industrie de la République d'Indonésie et le ministre de l'Économie, de l'Éducation et de la Recherche de Suisse, Johan Schneider-Amann, en marge du Forum économique mondial de 2018 à Davos, la fin de janvier. Selon Erlanga, la coopération des deux parties comprendra des activités telles que la gestion, les conférences et la formation, l'ajout de curriculum et la préparation du réseau et le soutien technique dans le développement du système d'enseignement professionnel. Le gouvernement suisse a fourni une aide de 110 milliards de roupies pour les 5 écoles polytechniques professionnelles indonésiennes qui sont déjà établies. Le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Mohamed Nasir, qui a assisté au lancement du programme Les compétences pour la compétitivité, a exprimé son appréciation à la coopération entre le ministère de l'Industrie et le gouvernement de Suisse. Mohamed Nasir espère que les acteurs de l'industrie pourront enseigner en polytechnique. Son côté encouragera la composition des conférenciers polytechniques à 50% du monde industriel. Avec ce système, le processus d'apprentissage dans les écoles polytechniques devrait être conforme aux besoins de l'industrie. Par ailleurs, l'ambassadeur de la Confédération suisse en Indonésie, Yvonne Baumann, a déclaré que par ce programme, la Suisse soutenait les efforts déployés par l'Indonésie pour améliorer les compétences professionnelles afin de réduire les taux de chômage pour stimuler l'économie indonésienne. Elle a félicité le gouvernement indonésien d'avoir réformé le système d'enseignement supérieur pour les professionnels et s'est réjouie que la Suisse puisse à nouveau contribuer à cet important programme par S4C. Selon lui, l'enseignement professionnel constitue un avantage pour les ressources humaines. Le développement des ressources humaines est essentiel pour lutter contre la pauvreté et pour parvenir à une économie plus innovante. C'est tout mon Indonésie. À demain.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et merci d'être fidèle à notre antenne. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter la cascade de Saluopa, située dans la province de Sulawesi Central. La cascade de Saluapa est située à Tonusu, Pamona, Pusilemba, le district de Poso, Sulawesi Central, environ 12 km à l'ouest de la ville de Tentena ou à environ 54 km au sud-est de la région de Poso, dans la province de Sulawesi Central. La cascade de Saluapa est l'une des attractions de Sulawesi Central qui est assez célèbre sur l'île de Sulawesi en raison de sa beauté naturelle et émerveille les visiteurs. Beaucoup de touristes locaux et étrangers viennent à ce site et selon eux, cette cascade est l'une des meilleures cascades en Indonésie. La cascade de Saluapa est également surnommée Air Luncur Saluapa parce qu'elle a une source d'eau de montagne locale qui est très claire et a glissé du sommet de la montagne. La hauteur de la cascade de Saluapa est environ 25 mètres. Elle passe les roches de montagne jusqu'à 12 niveaux de descendant jusqu'au niveau le plus bas et se termine dans une petite rivière du village de Le Boni. La cascade de Salouapa est très claire et propre, de sorte que les rochers, que les chutes d'eau passent, seront visibles très clairement. L'échelle est faite de pierre, bien qu'il ait été exposé à l'eau de pluie et qu'il soit moussu, mais ce que cette échelle ne soit pas glissant, il peut toujours être utilisé par les visiteurs pour accéder à d'autres niveaux de la cascade. Des escaliers en pierre peuvent également être utilisés pour prendre des photos. Parfois, il y a un très bel arc-en-ciel entre les cascades et vous pouvez prendre des photos. À cette attraction touristique, les touristes peuvent trouver une forme diversifiée et peuvent également profiter du panorama naturel de la forêt tropicale qui est très belle avec l'air frais. Lorsque vous traversez cette forêt tropicale, vous serez surprise lorsque vous serez accueilli par le chant des oiseaux de cette forêt tropicale. Si vous venez de la ville de Tentena et voulez visiter la cascade de Salouapa, vous pouvez utiliser le transport en commun ou bien un véhicule privé pour aller à cet endroit touristique. Après cela, vous pouvez continuer à l'emplacement en marchant environ 500 mètres. C'est un voyage qui dépensera votre énergie, mais croyez, quand vous y arrivez et vous voyez la beauté de la cascade de Salouapa, la fatigue va disparaître et transformer en sentiment d'admiration. Si vous voulez visiter la cascade de Salouapa et vous voulez y rester, il est conseillé de rester dans la ville de Tentena parce que autour de cet objet touristique, il n'y a pas encore d'hébergement. Jérémy, voilà le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta, intitulé La cascade de Salouapa, située dans la province de Sulawesi Central. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. On se retrouve dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons présenter la Journée mondiale de la tuberculose. La Journée mondiale de la tuberculose a été organisée pour la première fois par l'OMS et la Fondation du Royaume des Pays-Bas contre la tuberculose en 1995 à La Haye, aux Pays-Bas. La Journée mondiale de la tuberculose est un événement annuel qui se tient tous les 24 mars dans le but de sensibiliser le public à l'épidémie de tuberculose et d'obtenir des efforts pour éradiquer cette maladie. La tuberculose est une maladie infectieuse qui provoque beaucoup de morts en Indonésie. En 2016, il y a eu 274 morts par jour en Indonésie à cause de cette maladie. Dans la même année, il y avait 1020 de nouvelles personnes souffrant de tuberculose. Ce chiffre place l'Indonésie au deuxième rang des cas de tuberculose au monde après l'Inde et puis la Chine, les Philippines, le Pakistan, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la tuberculose cette année, l'Indonésie a pris le thème « Soin de la tuberculose, l'Indonésie en bonne santé ». Ce thème est d'inviter toutes les parties et tous les membres de la communauté à jouer un rôle actif dans le mouvement de TOS TB afin de prévenir et de contrôler la tuberculose. TOS TB est l'abréviation de trouver, traiter jusqu'à guérison de la tuberculose. C'est un mouvement pour trouver beaucoup de patients et les traiter jusqu'à ce qu'ils récupèrent afin que la chaîne de transmission dans la communauté puisse être arrêtée. Dr. Anung Sugiantono, le directeur général de la prévention et du contrôle des maladies du ministère de la Santé de la République d'Indonésie, a déclaré que la découverte des cas étaient augmentés intensément, soit par des installations gouvernementales ou privées. On adopte une approche intégrée des services anti-tuberculeux avec d'autres services de santé, ainsi qu'une découverte active par l'approche familiale. Il est également soutenu par une éducation durable, par diverses activités et médias. Ainsi, l'objectif de mettre fin à la tuberculose en 2035 peut être réalisé. Concernant la commémoration de la Journée mondiale de la tuberculose récemment, la ministre de la Santé, professeur Dr. Dr. Nila F. Moulouk, a exprimé la fermeté de l'engagement du gouvernement indonésien à éliminer la tuberculose en 2030. Cette question a été présentée au sommet sur la fin de la tuberculose et à la réunion de haut niveau sous le leadership CIARO sur l'endiguement de la tuberculose à New Delhi en Inde du 13 au 14 mars 2018. À l'ouverture de la réunion, un représentant des pays membres de l'OMS de la région Asie du Sud-Est au CIARO, Madame Nila Moulouk, a déclaré que le gouvernement indonésien a établi la prévention et le contrôle de la tuberculose comme la priorité de développement national pour la période 2015 jusqu'à 2019, qui était directement surveillée par le président. L'engagement du gouvernement indonésien a été réalisé par des actions concrètes sous la forme d'un financement intégral de l'élimination de la tuberculose, le renforcement de réseaux de services gouvernementaux au privé, basé sur les districts de la ville et de la notification obligatoire des cas de tuberculose, l'assurance maladie nationale pour améliorer la qualité des services de santé aux patients tuberculeux, la mise en œuvre d'approches familiales et communautaires, la formation de stratégies de partenariat communautaire et privé dans les régions, ainsi que la recherche active de patients tuberculeux, le développement d'innovations en recherche et le développement sur les politiques anti-tuberculose. Chers amis, voilà la rubrique L'Indonésie en couleur pour aujourd'hui, intitulée La journée mondiale de la tuberculose. Merci à tous et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Yubi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Virgin. Pour commencer la rencontre, écoutons une chanson intitulée Cinta terlarang ou en français amour interdit.
Kau kan selalu tersimpan di hatiku.
Tuhan berikan aku hidup
Chers auditeurs, voilà la chanson intitulée Cinta Terlarang par The Virgin. The Virgin est un groupe de duo indonésien formé à Jakarta en 2008. Ses membres sont Mita, guitariste, et Dara, chanteuse, qui travaille sous la direction d'Ahmad Dhani, musicien indonésien célèbre. La formation de ce groupe a été initiée par Ahmad Dhani. L'idée est venue de la chanson Cinta Terlarang, créée par Mita, qui était encore un membre d'un groupe triad avec Ahmad Dhani. Ahmad Dhani veut que cette chanson est chantée par deux personnes. Ensuite, elle a recruté Dara, une candidate à un concours de recherche de talent. Dara et Mita ont été réunis en 2008, dont le groupe de Virgin est formé. Si vous souhaitez, avant de parler plus, écoutons une chanson intitulée Cinta Gila, ou en français Amour Fou. Bonne écoute.
Bye.
Ces auditeurs, la chanson Tinta Terlarang a reçu un accueil chaleureux. De Ferdinand est bien célèbre pour plusieurs années. De Ferdinand a gagné divers prix de musique en tant que groupe duo le plus favori. De plus, grâce à sa renommée, les deux membres avaient déjà joué dans plusieurs films de télévision ou et films du ciné. Donc, chers auditeurs, voilà l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Voici les deux dernières chansons intitulées Synthétique ou Une seconde et positif négatif. Bonne écoute et à la prochaine.
Thank you.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Kita berdiri di sini untuk kau lihat, mencoba berikan yang terbaik. Omongan orang yang tak mengenakan hati, biar saja balas dengan
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.